Cela fait du bien dans les temps que nous vivons d'entendre un récit de miracle, un miracle, la guérison surnaturelle d'un aveugle, de naissance qui mendiait. Il était à la porte du temple en train de mendier, et il faut pouvoir le préciser, il n'était pas tout seul, il était sûrement accompagné, entouré de très nombreux laissés pour compte, toutes sortes d'infirmes, de boiteux, d'estropiés en tout genre, de tous ceux qui n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Et les disciples se font l'écho de cette situation. S'il est malade, s'il est comme ça, c'est qu'il est pécheur, lui ou ses parents. Qu'il n'aille donc pas contaminer les autres croyants, contaminer le sanctuaire. Du temps de Jésus, ou plutôt avant Jésus, il fallait être saint pour entrer dans le lieu saint. Aujourd'hui, il suffit de vouloir le devenir. Il suffit de se reconnaître pécheur. Le plus étonnant dans ce récit n'est pas le miracle proprement dit, ce sont plutôt les réactions défavorables, les réactions même hostiles que ce miracle provoque. Qu'est-ce que c'est un miracle ? C'est, dit le dictionnaire, un phénomène interprété comme résultant d'une intervention divine. Et c'est tout le sujet des discussions tout au long de ce texte, de ce long texte. Ce Jésus est-il le Messie? Est-il le Christ? Est-il l'envoyé de Dieu? Un miracle est bon. C'est la deuxième définition du dictionnaire. Un fait étonnant qui suscite l'admiration. Et ce n'est pas le cas ici. Et c'est une tristesse. Une grande tristesse que l'absence de joie, l'absence de liesse du public, l'absence d'émerveillement. Un miracle, c'est une chose bonne, c'est une chose merveilleuse, admirable. Mais quand le phénomène est mauvais, quand il s'agit d'une calamité telle que l'épidémie que nous vivons, comment ça s'appelle ? Une malédiction ? Une punition divine ? Je reviendrai sur le sujet dimanche prochain. Je voudrais pour aujourd'hui, pour l'heure, tirer 5 enseignements de ce texte d'Évangile. 5 enseignements pour le temps d'épreuve que nous vivons, d'une certaine façon, 5 conseils en temps de crise. Ayons d'abord de la considération. Au sens fort du terme, considérons, mais ayons la considération, c'est-à-dire de l'admiration pour cet aveugle, pour la docilité de cet aveugle. Le terme est plus exact que son obéissance. La docilité de cet aveugle, Jésus lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », et il y va. Vous vous souvenez du centurion romain, celui qui ne se jugeait pas digne de recevoir Jésus sur son toit, mais dit seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis va, il va, un autre vient, il vient. À mon esclave, fais ceci, il le fait. Et quand il entend cela, Jésus fut en admiration. Dieu en admiration devant l'homme. Dieu admire l'obéissance. L'obéissance de la foi, bien sûr, mais Dieu admire la docilité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Alors l'Évangile insiste, c'est à la piscine de Siloé que l'aveugle doit aller se laver. Siloé, dont le nom signifie « envoyé ». « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », dit Jésus au soir de Pâques. Il nous envoie, il nous demande de faire sa volonté comme lui-même a fait la volonté de son Père. Comment pouvons-nous prier chaque jour que ta volonté soit faite et passer notre temps à contester les ordres qui nous sont donnés? Ne devons-nous pas obéir aux petites choses de la vie courante pour pouvoir obéir au grand commandement de Dieu? Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, nous entrons dans la joie du maître, nous entrons dans la joie du Seigneur chaque fois que nous faisons preuve de docilité, chaque fois que nous lui faisons confiance. Le deuxième enseignement de cette page de l'Évangile vient de la place disproportionnée prise par les discussions sur l'événement, sur le miracle. Il y a ce phénomène incompréhensible, inexplicable, inattendu. Alors il est normal que nous parlions entre nous de ce que nous ne comprenons pas. Il est normal que nous cherchions ensemble, à voix haute, que nous cherchions à nous rassurer, tant notre pensée peut être encombrée, obscurcie, phagocytée par nos émotions. La peur ne se contente pas de paralyser, la peur rend idiot. Surtout si nous passons nos journées à écouter des commentaires inutiles et qui deviennent à la longue plus que toxiques. Alors s'il y a une recommandation en ce moment, c'est de passer pas trop de temps à écouter les nouvelles. Et surtout, plutôt, passer autant de temps à prendre des nouvelles de Dieu que du monde. Une règle simple, une heure d'info, une heure de Bible. Une heure d'info, une heure de Bible. Une heure d'info par jour, c'est suffisant. Cette page d'Évangile contient une phrase qui est tout à fait d'actualité pour nous. La discussion y est biaisée par ceux qui, dit le texte, s'étaient déjà mis d'accord pour exclure tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ, le Sauveur. Et nous avons aujourd'hui, comme hier, deux écueils inverses à éviter. Exclure la possibilité d'une intervention divine ou s'en remettre uniquement à elle. C'est pour un discernement que je suis venu, dit Jésus. Le texte dit « pour rendre un jugement ». Le mot grec « krima », qui est traduit par « jugement », c'est la même origine, c'est la même base que le mot « crisis », la crise. L'événement qui oblige chacun à prendre parti. Eh bien, dans la crise que nous vivons, chacun doit décider qui. Quel Dieu il choisit de suivre et d'adorer ? Celui qui sert ses intérêts ou celui qui le sauve ? Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? Demandent certains, non sans un certain bon sens. Mais il faut aller plus loin. Et s'il n'était pas pécheur ? Et si c'était lui le saint de Dieu ? C'est une expression qui est utilisée dans l'Évangile par les démons. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » On trouve ça au début de l'Évangile de Marc ou de Matthieu. C'est utilisé par les démons, mais c'est aussi utilisé par l'apôtre Pierre, au moment de sa profession de foi. « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous croyons, nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Comment Pierre peut-il professer ainsi sa foi ? Comment Pierre peut-il dire cela ? Évidemment sous l'action de l'Esprit-Saint. Heureux es-tu si mon fils de Jonas n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Évidemment c'est l'Esprit-Saint. Mais aussi parce que avec les autres disciples, il vient d'assister ou il venait d'assister à la multiplication des pains, à la marche de Jésus sur les eaux. Il vit et il crut. Aux pharisiens qui cherchent à le manipuler, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. L'aveugle guéri répond, « Moi, il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » J'étais aveugle et à présent je vois. Dans sa première exhortation apostolique, dans la joie de l'Évangile, le pape François rappelait un certain nombre de principes fondamentaux. Un principe qui est toujours bon pour nous aujourd'hui, à savoir que l'unité prévaut sur le conflit. Mais principe fondamental, la réalité est plus importante que l'idée. La réalité de la guérison est plus importante que l'idée que vous avez de la maladie. La réalité est plus importante que l'idée, et c'est pourquoi ce récit commence par une nouvelle création avec de la boue, de l'eau et le souffle de l'esprit. La parole de Dieu en acte. Ce sont les œuvres de justice et de charité qui rendent féconde la parole de Dieu. Quatrième enseignement de ce texte, l'humour improbable de l'aveugle guéri. Les autres insistent. Comment il a fait ? Comment il a fait ? Comment il a fait pour t'ouvrir les yeux ? Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Face aux difficultés, la grâce que nous pouvons demander, c'est quand même un peu d'humour. Même dans les situations dramatiques, il faut être capable de prendre de la distance, de se décentrer de soi. Le dernier enterrement que j'ai célébré avant le confinement, c'était d'une femme qui avait souffert atrocement, elle avait été abandonnée avec ses enfants par son mari. Et le mari, qui était médecin, était revenu dans les derniers mois, 25 ans après, pour la soigner dans ses dernières semaines. Mais la veille de sa mort, cette femme, une femme tout à fait étonnante, a dit à ses enfants avec un grand sourire, elle leur a dit « Voilà, au moins votre père n'aura plus à payer ma pension alimentaire. » Le cinquième enseignement enfin concerne la prière. Cet aveugle, à la porte du temple, mendiait. Il mendiait pour survivre. Guéri, il entre dans l'adoration et dans la louange. Nous sommes tous des aveugles de naissance qui ne pouvons voir l'invisible. Nous sommes tous des mendiants d'amour à la porte du royaume. Au jour de notre mort, nous serons comme cet aveugle guéri à qui Jésus demande « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? Tu le vois, et c'est lui qui te parle. Puissions-nous alors dire « Je crois, Seigneur » et nous prosterner devant lui.